Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a cette question qui recommence à inquiéter le patronat. Et si... le gouvernement retardait de nouveau la disparition de la CVAE. Vous savez, cet impôt de production qui aurait déjà dû disparaître depuis un certain temps. Et il se trouve que Thomas Cazenave a une petite phrase un petit peu ambiguë ce matin sur le sujet. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Au-delà de ça, ça a été le grand sujet de cette semaine et ça le sera encore la semaine prochaine. Où va-t-on chercher à faire rapidement de nouvelles économies? Le patron de Total l'a rappelé en tout cas ce matin. Son groupe ne fait pas de super profits en France. Avis aux amateurs, bien sûr. Bruno Le Maire à Sandouville, où il a parlé réindustrialisation. On vous racontera tout ça, bien sûr, avec nos experts, entre autres, qui arrivent dans un quart d'heure. Voilà le programme non exhaustif. Good Evening Business en direct jusqu'à 19h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc, c'est la question qui recommence finalement à se poser. Est-ce que le gouvernement va de nouveau toucher au calendrier de la suppression de la CVAE? Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
La question se pose parce que Thomas Cazenave donc, a déclaré ce matin que la CVAE, je cite, faisait partie des sujets dont il fallait parler avec le parlementaire. Et ça, c'est une petite phrase qui ne plaît pas du tout au patron, Thomas.
Bah, qui fait réagir, en tout cas, effectivement, le président du MEDEF, Patrick Martin, nous confie à BFM Business avoir, je cite, des interrogations préoccupantes sur la CVAE. Parce que la déclaration de Thomas Cazenave ce matin chez nos confrères de Sud Radio laisse entendre que le gouvernement pourrait, je dis bien pourrait au conditionnel, une nouvelle fois revoir le calendrier de la suppression de cet impôt. Je vous rappelle qu'il reste 3 milliards d'euros à supprimer. Oui. Le calendrier prévu, c'est de supprimer 1 milliard par an en 2025, 2026, 2027. Mais vu la situation des finances publiques, eh ben ce calendrier pourrait bouger. Ce n'est pas à l'ordre du jour, nous dit l'entourage de Thomas Cazenave, mais... ajoutons, on ne ferme pas la porte à la discussion. Autrement dit, le gouvernement ne le souhaite pas, mais ce n'est pas exclu. Et ça, ça attire l'attention du patronat parce que c'est ce qui s'est déjà produit deux fois. Le gouvernement a déjà changé deux fois le calendrier de la disparition de la CVAE pour des raisons budgétaires. Au départ, l'impôt devait disparaître en une fois en 2023. Finalement, Bruno Le Maire avait dit que ce sera en deux fois 4 milliards en 2023, 4 milliards en 2024. Et puis l'an dernier, vous en souvenez, au lieu de supprimer comme prévu d'un coup les 4 milliards restants, eh bien le gouvernement avait dit que ce serait finalement 1 milliard par an entre 2024 et 2027. Et donc la crainte du patronat, après la déclaration de Thomas Cazenave, eh bien, c'est que le calendrier soit modifié une troisième fois, oui, avec peut-être, très concrètement, pas de baisse de CVAE cette année, et les 3 milliards restants supprimés en 2026 et 2027, ce n'est pas du tout acté, mais c'est une possibilité, et le patronat est sur ses gardes.
Bon, ce ne serait quand même pas sur des grosses économies si on décalait encore au calendrier, hein, Thomas. Voilà, ça serait 1 milliard par 6, fois 3, voilà, ce n'est pas non plus des économies très significatives.
Oui, mais le signal envoyé au patronat, oui, on l'a bien vu l'année dernière au moment de la REF, a créé un vrai psychodrame.
Voilà donc pour la CVAE et beaucoup de questions évidemment autour de l'avenir de cet impôt de production, sa disparition totale évidemment. On en parlera bien sûr avec nos experts dans quelques minutes. Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Bruno Le Maire pendant ce temps était donc à Sandouville chez Renault en Seine-Maritime pour parler réindustrialisation. Renault qui a annoncé là-bas que l'usine... allait construire une nouvelle génération de fourgons électriques. La France, a répété Bruno Le Maire, doit continuer d'accélérer sur la décarbonation. Paul Biloquet pour BFM Normandie était sur place. Reportage.
La venue de Bruno Le Maire était très attendue à Renault Sandouville. Beaucoup de journalistes et d'institutionnels, personne ne voulait rater l'annonce de la production à venir du nouveau véhicule utilitaire électrique Flexivan qui s'accompagne de 550 nouveaux emplois. Lors de son discours, le ministre a aussi rappelé ses ambitions en matière de réindustrialisation. La France doit trouver 22 000 hectares pour construire de nouvelles usines d'ici 2030. Il a aussi rappelé son ambition de devenir la première nation décarbonée d'ici 2040, la France doit rattraper son retard, assure-t-il.
Nous avons fait un choix en Europe, qui est de basculer vers l'électrique.
Eh bien, nous devons tenir résolument à ce choix. Sinon, les industriels vont être perdus, ne sauront plus où il faut aller et nous allons à nouveau prendre du retard par rapport à nos concurrents chinois. Le choix de l'Europe a été celui de l'électrification des mobilités, de l'électrification de l'industrie automobile. Des investissements considérables ont été faits. Il faut tenir résolument ce choix pour rattraper notre retard par rapport à la Chine et réussir vers l'industrialisation européenne.
Sandouville et le Flexivan symbolisent parfaitement l'accent que veut donner le ministre à cette réindustrialisation. Il souhaite aussi la création de nouvelles filières, notamment dans les batteries électriques, le photovoltaïque ou encore les pompes à chaleur.
Voilà pour les projets de Renault du côté de Sandouville en Normandie, en Seine-Maritime. Et puis, autre région, on continue bien sûr de développer à tour de bras de nouvelles activités dans le secteur auto, c'est bien sûr les Hauts-de-France. Il se trouve que là-bas, après bien d'autres, Suez et Eramet viennent de détailler leur projet de recyclage de batteries électriques. Et tout ça va se passer à Madric. On est à quelques kilomètres vraiment de Dunkerque. Reportage Florine Curec avec Alexandra Paget.
Les batteries qui sortiront des gigafactories pourront être recyclées à seulement quelques kilomètres de là. Deux usines devraient voir le jour. En amont, celle de Suez qui s'occupera du démantèlement des batteries. En aval, celle d'Eramet pour en valoriser les métaux stratégiques. Frédéric Martin, directeur du projet Relieve pour Eramet.
Donc on va récupérer à la fois les fins de vie, ce qui vient des gigafactories qui n'aura pas été qualifié pour faire des batteries. On va les séparer. On va restituer des métaux de haute valeur qui vont servir à faire les précurseurs des batteries, puis les batteries. Donc c'est vraiment la chaîne circulaire.
Ce projet estimé à 300 millions d'euros est soutenu par la communauté urbaine de Dunkerque et la maire déléguée de Mardic, Fabienne Castel.
Qu'on ait un projet à 2000 emplois ou un projet à 200 emplois, ce sont des projets toujours très très intéressants et qui vont apporter vraiment une bouffée d'oxygène, un renouveau à notre territoire, que ce soit en termes d'économie et en termes d'emploi.
Eramet devrait traiter 50 000 tonnes de modules de batteries de véhicules électriques par an, soit l'équivalent de 200 000 voitures mises en service en 2027.
Reportage donc à Mardic, tout près de Dunkerque, Florine Curec, Alexandra Paget pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours, le bras de fer continue chez Auchan pour réclamer des hausses de salaire. Il y avait déjà eu une première journée d'action syndicale la semaine dernière. Des salariés se sont encore mobilisés aujourd'hui, entre 3 et 5 000 sur quelques 59 000 salariés recensés en France, d'après la CFTC, qui est le premier syndicat du groupe. Et puis alors, en France, toujours, c'est un dossier qui traîne depuis 2 ans. EDF n'arrive toujours pas à racheter les activités nucléaires de General Electric, hautement stratégique. En fait, c'est la guerre en Ukraine qui a tout stoppé. La France négocie avec les Américains qui bloquent tout dans ce dossier aujourd'hui. Mathieu Pechberti nous explique tout cela.
Il ne se passe plus rien depuis 4 mois entre EDF et General Electric. Les deux entreprises s'étaient pourtant mises d'accord à l'automne dernier pour la reprise des activités nucléaires héritées d'Alstom. Mais le gouvernement américain a bloqué la vente des fameuses turbines Arabelle à EDF, pourtant voulues par Emmanuel Macron, dans le cadre de la relance du programme nucléaire. La moitié de leur carnet de commandes provient de l'entreprise publique russe Rosatom. Les discussions se poursuivent au plus haut niveau, nous assure une source proche du dossier. Le gouvernement français cherche à s'assurer que les sanctions américaines épargneront EDF, alors que les projets pour Rosatom sont hors de Russie, en Égypte, en Hongrie et en Turquie. En attendant d'obtenir ce feu vert des Américains, les 1500 salariés d'Arabelle à Belfort ont totalement arrêté de travailler sur les projets de Rosatom.
Mathieu Pechberti, vous retrouvez toutes les informations si le sujet vous intéresse sur notre site internet bfmbusiness.com. Et puis si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, bah allez au parc Astérix, puisqu'il rouvre ce week-end, figurez-vous, à l'occasion des fêtes de Pâques. Le parc Astérix, c'est 2,8 millions de visiteurs l'an dernier, 35 ans et encore plein de projets pour les prochaines années. De nouvelles attractions d'ailleurs doivent voir le jour prochainement. Hélène Cornet.
Le parc Astérix ne s'est jamais aussi bien porté. 194 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 14%, 2,8 millions de visiteurs en augmentation de 6%. La Compagnie des Alpes, son propriétaire, récupère les fruits d'une politique d'investissement ambitieuse, plus de 200 millions d'euros investis sur les deux dernières années. La tour de numéro bis est la dernière attraction. L'idée est d'être suspendu à 40 mètres de hauteur dans des chaises volantes. Et pour faire encore grimper le ticket moyen, le parc Astérix compte aussi sur les boutiques, la quinzaine de restaurants et l'hébergement. Un quatrième hôtel est prévu bientôt pour accueillir la clientèle étrangère qui représente désormais 14% des visiteurs contre 8% il y a quelques années. L'autre levier est d'allonger la saison. Le site va ouvrir 10 jours supplémentaires cette année. Autant d'axes de développement qui promettent une très bonne saison, même s'il est impossible de prévoir l'impact des JO cet été.
Voilà le parc Astérix qui ouvre ses portes ce week-end. 35 ans et encore plein d'avenir. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h07, les marchés sont fermés. Cela vendredi, vendredi saint bien évidemment. Retour des marchés en partie en début de semaine prochaine, évidemment. 18h08, nous on se retrouve avec nos experts dans un instant pour refaire toute l'actu économique de ces dernières heures, même de la semaine. C'est vendredi, on prend un petit peu de hauteur. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h12, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts du soir, pour refaire l'actu comme tous les soirs. Bien sûr, Guillaume Autier est avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Bonsoir Guillaume.
PDG du groupe Meilleur Taux, François Girolf est avec nous. Bonsoir François,
économiste. Bonsoir Guillaume.
Allo FCE, puis Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital avec nous. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous. Alors le vendredi, on prend un petit peu de hauteur, on regarde dans le rétroviseur ce qu'a marqué cette semaine. Qu'est-ce qu'a marqué cette semaine? Bah, les velléités du gouvernement de lancer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vous avez entendu Gabriel Attal, qui a lancé pas mal de pistes mercredi soir sur TF1. Vous avez peut-être entendu les syndicats aussi qui sont montés très vite au créneau. Alors on voulait vous faire écouter, c'était mercredi matin, un petit peu avant ces annonces, mais celui qui monte au créneau le mieux dans ce genre de circonstances, François Aubry, le patron de la CFE-CGC. Écoutez, c'est tout un roman.
Gabriel Attal, il va annoncer que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il va rallumer des centrales thermiques au charbon. C'est en fait ce qu'il va dire. Ah, vous voyez, ça vous choque, ça vous étonne. Mais c'est ce qu'il va dire sur le chômage. Il va dire qu'il pense, lui, Gabriel Attal, lui tout seul, contre la communauté scientifique, car il en existe une sur ce sujet-là, qui pense tout seul que quand on tape un peu plus sur la tête des chômeurs, eh bien, ils retrouvent un peu plus facilement du travail. Alors ça, c'est faux. Il est démontré que c'est faux. Il y a une littérature très abondante sur le sujet. C'est ce qu'on appelle une idée reçue, un lieu commun de coin de barre. Et donc, Gabriel Attal va faire cette double incursion sur le sujet. Il va parler à un mauvais moment et il va dire des mauvaises choses. Il faut rappeler quand même que l'indemnisation moyenne, c'est de l'ordre de 1000 euros. C'est la moyenne de 900 euros, un peu moins, pour les gens qui ont au moins un ou deux jours d'activité dans le mois. Et 1100 euros en moyenne pour les gens qui n'ont pas eu d'activité. Ouais. C'est de ça qu'on parle quand même. Donc, de quoi parle Gabriel Attal ? Gabriel Attal dit n'importe quoi sur ce sujet-là. Et c'est vraiment très très grave. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ma petite blagounette sur le réchauffement climatique. En termes d'évaluation scientifique de son propos et de son avis, c'est à peu près du même niveau d'indécence.
Je vous ai prévenu, hein, c'est tout un roman. Hein, François Aubry, le mercredi matin, donc avant les annonces de Gabriel Attal, qui ne s'est pas vraiment mouillé, François Girolf, quand même. On a eu l'esquisse d'une réforme, une ou deux pistes, mais pas plus que ça, pas de calendrier, pas de piste définitive, pas de... Je sais pas comment est-ce que vous avez regardé cette séquence, vous, cette semaine.
Bah, en même temps, il y a déjà eu un certain nombre de réformes de l'assurance chômage dans les années qui viennent.
Hein, voilà.
Voilà, la prochaine, il y en a une qui arrive apparemment. Bon, moi, je suis plutôt d'accord sur ce sujet avec les économistes auxquels il est fait mention. Voilà, de dire, bon, déjà, il y a la moitié des chômeurs quand même qui ne sont pas indemnisés.
Oui.
Donc eux, clairement, ça va pas pouvoir les ramener à l'emploi. Et après, alors évidemment, on connaît tous des abus. On a tous entendu parler de gens qui, voilà, qui profitent de leur assurance chômage. D'un autre côté, souvent, ceux qui en profitent, ça peut être éventuellement en fait les cadres qui, pour qui ce serait pas très difficile de retrouver un emploi, mais qui estiment qu'ils ont cotisé toute leur vie, et donc il n'est pas anormal qu'ils bénéficient aussi du système. Donc
mais
en fait,
ça,
on a plusieurs.
Pas, on va pas dire que c'est l'épaisseur du trait, on n'en sait rien. En fait.
Voilà, alors on n'en sait rien. Ce qu'on observe quand même, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'au moment où les droits disparaissent, enfin, au moment de la fermeture des droits, on trouve que les gens trouvent quand même plus facilement un emploi. Enfin, voilà, leur probabilité de retrouver un emploi augmente au moment où les droits arrivent à expiration. Donc ça montre peut-être qu'ils auraient pu anticiper un petit peu par rapport à ça, mais en même temps, c'est humain, c'est difficile de leur. Jeter la pierre. En France, on a un système d'assurance chômage, voilà, qui est relativement plus long que les autres pays, comme sur d'autres sujets où on décide d'être plutôt plus généreux. Ça a des inconvénients en termes d'incitation. Ça a aussi des avantages parce que ça permet aux gens de retrouver un emploi qui correspond plus à leurs compétences, à leur donner la chance, justement, de rebondir et de retomber sur quelque chose de plus correct pour eux.
C'est bien sur ce levier de la durée qu'on est parti pour agir, a priori, à des sens aux alentours de 14, peut-être 12 mois. Mais c'est pas, on l'a dit, c'est pas un game changer pour autant. Voilà, réduire la durée d'indemnisation, c'est pas la panacée, loin de là, Xavier, quand même.
Non. Non, mais c'est un contre-feu politique.
Oui.
Voilà, c'est tout.
Ah ben, tout le monde là, oui.
C'est un contre-feu politique, donc on va, je l'imagine, discuter des arguments autour de ce plateau, mais c'est pas à la hauteur du problème. Quel est le problème sur la publication des chiffres de l'INSEE mardi? Le problème, c'est qu'on a une croissance nominale entre 2023 et 2022 d'un peu plus 6%. Les dépenses ont cru de 4%, les recettes ont cru de 2%. Donc le multiplicateur des recettes sur la croissance nominale est de 0,33. Le problème, il est là. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Pourquoi on a un rendement de l'impôt qui est quasi nul, voire l'impôt sur le revenu négatif? C'est ça. Donc il se passe quelque chose au niveau macroéconomique sur la deuxième partie de l'année 2023. Est-ce que c'est dû au phénomène de sortie de l'inflation? Donc on a une bulle inflationniste sur 2020-2021 qui a inflaté les revenus. Vous avez eu sur ce plateau, je crois, le président de Intermarché qui parlait,
oui,
d'avoir constaté à partir de septembre une déconsommation. Donc je pense qu'il y a
le patron de Systemus cette semaine aussi.
Ouais, voilà Systemus. Ouais. Donc est-ce que c'est un phénomène transitoire, ouais, ou est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est d'abord ça qu'il faut adresser. Ensuite, tendanciellement, notre déficit primaire est calé sur aux alentours d'un peu plus de moins 3%. Notre charge de la dette, pour l'instant, est inférieure à 2, légèrement inférieure à 2. Elle va converger à horizon 2027-2028 aux alentours de 3%. C'est-à-dire que notre déficit structurel se cale aux alentours de 6%. Donc si vous croyez que c'est en tapant sur les conditions de rétribution des chômeurs que vous allez résoudre ce problème, vous faites fausse route. Enfin, dernier point, c'est une observation de, je dirais, je vais la qualifier de politique. Si vous avez fait 3 réformes consécutives avec une dimension contracyclique qui consistait à rendre les conditions de chômage plus sévères en matière de bonne croissance, de croissance élevée, oui, et plus flexibles en matière, oui, de reflux de la croissance. Vous êtes là dans une situation de parjure. C'est-à-dire que vous avez dit à la société française, vous avez dit que vous allez flexibiliser les revenus du chômage en fonction, de manière contracyclique, en fonction du trend de croissance économique, et vous annoncez, sous la publication des données de l'INSEE, qui sont un déficit qui, là-dessus, il faudra se justifier, vous annoncez que vous allez, comme seul dispositif, vous allez diminuer. Donc le gain en revenus, le gain va être de quelques 2, 3 milliards d'euros, pas plus. Par contre, vous allez générer des externalités négatives, des inégalités primaires, puisque le chômage, ça permet de contrer des inégalités primaires. Vous allez générer des inégalités primaires. Et donc là, d'une certaine façon, vous faites le lit, non pas d'un retour à l'emploi de moyen terme, mais vous faites le lit d'un contexte socio-politique qui va être extrêmement instable à des échéances relativement courtes. Donc, là, pour le coup, vous avez mal donné sur toute la ligne. Si vous voulez vraiment faire un retour à l'emploi, à ce moment-là, il faut assujettir ce type de dispositif d'un volet de formation. C'est-à-dire vous combinez un dispositif de retour à l'emploi pour des gens qui sont éloignés du marché de l'emploi depuis de longues périodes, et vous assujettissez toute une série de dispositions avec cette contrainte que, effectivement, les indemnités chômage vont aller décroissantes. Là, c'est un truc qui peut marcher, de manière budgétaire comme ça.
Mais comme vous dites, on est dans un parfum poétique, voilà, et les échéances de court terme, à quelques semaines avec le verdict des agences de notation, évidemment. Guillaume Mottier, comment est-ce que vous regardez cette séquence?
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je pense que la situation de la dette qu'on connaît, elle est d'une gravité absolument exceptionnelle, et elle mérite que le gouvernement se saisisse du sujet. Je suis frappé, en fait, comme vous, du côté très mesuré des propos du Premier ministre. Je dirais même, dans le vocabulaire sur ce sujet, j'ai retrouvé des phrases et des formules qu'on entend depuis 40 ou 50 ans en France, du type « il faut faire confiance aux partenaires sociaux, il faut respecter les propositions qu'on me fera ». J'ai trouvé que c'était honnêtement pas du tout à la mesure et à la hauteur du sujet. Je pense que le gouvernement, il a parfaitement raison de se saisir de ce sujet. Le sujet de l'assurance chômage, je veux dire, c'est pas une sympathique exception, c'est un sujet vraiment structurel qui explique que le taux de chômage frictionnel y soit plus élevé en France qu'ailleurs. On ne peut pas dire sur ce sujet, comme sur le taux d'impôt, comme sur le niveau de dette, finalement, la France, elle a ses spécificités, c'est comme ça, c'est sympathique. On est dans une situation de crise extrêmement grave. Je pense, au fond, on va parler un petit peu plus généralement du sujet des finances publiques dans un instant, mais on voit que... Voilà, le gouvernement, au fond, le Premier ministre, et puis avant le président de la public. Ils ont, de mon point de vue sur ce sujet, qui est une vraie crise de la dette. Hein, on voit que si on prolonge un peu les tendances, d'ici la fin de la décennie, les charges de la dette, ce sera plus de 100 milliards oui. Par an. Hein, on va passer les 70 milliards probablement en 2026 ou en 2027. On voit que on a les 5,5% dont a parlé l'INSEE. On est en situation de crise. Premièrement, on maintient la gouvernance telle qu'elle est. Bruno Le Maire, qui nous a expliqué le quoi qu'il en coûte, maintenant nous explique qu'il est terminé. Qui dit crise, dit gestion de crise. Et donc, ça veut dire organisation dédiée. Le gouvernement ou le président devrait nommer une personnalité en mission chargée de faire des propositions. Là, fondamentalement, on ne change rien à l'organisation. Je trouve ça très préoccupant. Deuxièmement, il n'y a pas d'objectif clair. L'objectif, on a dit il y a deux mois, on veut réduire de 10 milliards. C'était pas du tout à la mesure du sujet. Ensuite, c'est passé à 20. Maintenant, on dit c'est 4,4% de déficit. C'est 3% en 2027. Personne n'y croit. Je pense qu'il faut annoncer un objectif très clair et, au fond, à très court terme. Il faut dire quelque chose comme 40 ou 50 milliards d'économies, pas d'un point en plus, mais d'économies à horizon 12 mois. Ça, c'est à la hauteur de la situation.
Ça, à 2-3 mois d'élections.
Les élections européennes, honnêtement, elles n'ont aucun enjeu. Oui, on peut le dire. Donc, le gouvernement, il doit se saisir sérieusement de cette situation et donner un objectif clair. Troisième erreur que fait le gouvernement, il sanctuarise d'emblée des domaines entiers. Alors, il a un petit peu changé d'avis, mais il y a à peine deux mois, on nous expliquait qu'on ne touchait pas aux dépenses sociales, qu'on ne touchait pas aux collectivités locales, donc à 60% des dépenses publiques. Avec ça, honnêtement, on n'est pas prêt de résoudre le sujet. Donc, je pense qu'en effet, le gouvernement, il ne doit pas avoir peur des partenaires sociaux, de leur discours là-dessus. Il doit, au contraire, agir face à la crise à laquelle on fait face avec les moyens qui s'imposent.
Parce que les gisements économistes sont bien sur la dépense sociale, pas forcément sur l'assurance chômage, mais peut-être sur les retraites. Alors, on a déjà fait aux dépenses de santé, sur les secteurs auxquels on ne va pas toucher, évidemment, là, quelques mois des élections européennes, à quelques semaines du verdict des agences de notation. Enfin, voilà. Il y a ces éléments contradictoires, agences de notation dans quelques semaines, élection européenne. Même si vous me dites, j'entends ce que vous dites, il n'y a pas d'enjeu autour des
pas tellement d'enjeu.
Mais c'est surtout que je ne vois pas très bien comment on fait 40 milliards d'économies ou 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, comme vous le dites, à horizon un an. Enfin, je ne vois pas vraiment.
Mais personne n'y croit.
Je rappelle juste qu'on vient d'augmenter les dépenses de retraite. Les dépenses de retraite, les 5% de hausse, c'est 15 milliards.
Oui.
Rien que cette mesure-là, en fait, elle représente à peu près la moitié de l'effort qui est nécessaire. Et donc, on parle, en fait, de quelque chose qui, si on s'attaque vraiment aux dépenses sociales, si on ne sanctuarise pas, est tout à fait réaliste. Regardez des pays, justement comme l'Argentine, qui a été un tout petit peu brocardée. L'Argentine est revenue en trois mois à une situation d'équilibre budgétaire. Est-ce qu'on peut économiser 40 milliards d'économies ? Est-ce qu'on peut faire 40 milliards d'économies en France ? Absolument, c'est tout à fait possible. Je pense que la situation l'exige.
C'est une question de volonté. On ne l'a jamais fait. C'est une question
on ne l'a jamais fait. Il faut maintenant le faire.
C'est une question de volonté politique. Enfin, l'ouverture de la désindexation des retraites, là, elle est en train de se refermer, puisque l'inflation aujourd'hui ressort à 2,2%. Donc, du coup, ça veut dire que l'an prochain, il y aura beaucoup moins de place pour désindexer potentiellement les retraites. Et donc là, effectivement, il y avait potentiellement, je pense, une ouverture. Mais le gouvernement a décidé de revaloriser les retraites aussi, je pense, dans un contexte électoral. Il a revalorisé les retraites de 5,3%, mais il ne faut pas oublier qu'en partie, c'est dû au contexte. Après, moi, je pense que, voilà, c'est toujours... honnêtement, je pense que la situation dans laquelle Bruno Le Maire et Thomas Cazenave sont est quand même pas facile, parce que ils se sont fixés comme objectif, cet objectif, à mon avis, et là, on va être d'accord, irréalisable à 2027. Enfin, personne n'y croit qu'on va retourner à 3%.
Vous avez vu ce qu'a dit Moody's, le taquet qu'a envoyé Moody's avant-hier au gouvernement français.
Mais c'est
qui évident. Croit
non,
qui
personne n'y croit, croit, personne n'y croit. Personne n'y croit, mais la question, c'est est-ce qu'on va revenir à 4, à 5 vous voyez, ça commence à être ça la question.
À partir après, où personne n'y croit. voilà. Vous êtes entendu.
Oui.
À part Bruno Le Maire qui s'y accroche comme un peu de sauvetage.
Oui, du coup, on est d'accord pour dire qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Du coup, c'est...
Alors, est-ce que ça veut dire, par contre.
La charge d'intérêt de la dette sur les 50 milliards, vous dites horizon 2027, 70 milliards, faire quand même un peu attention, parce que là, on compte, en plus, vous connaissez bien ce sujet, là, on compte le taux nominal de la dette. Il ne faut pas oublier la taxe inflationniste qui est de l'ordre de 70 milliards quand on est à une inflation de 2%. Donc, 2% fois 110% du PIB, ça fait de l'ordre de 2,2% du PIB chaque année, en fait, qu'on taxe les détenteurs d'obligations. C'est assez simple à comprendre. Comme le taux sur la dette, en fait, il est inférieur à 2%, donc inférieur à l'inflation, en fait, l'État gagne actuellement quand il emprunte. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter trop, à mon avis, du fait que la charge d'intérêt de la dette est importante. C'est la charge d'intérêt nominale. En réalité, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont prêts à payer pour prêter à l'État. Et l'État, aujourd'hui, il gagne de l'argent quand il emprunte.
J'entends. Je pense que l'indicateur dont vous parlez, c'est une précaution méthodologique que je reconnais. Je pense que le montant de la dette en valeur absolue, les 110% du PIB, ça, c'est en termes réels. Et ça n'a fait qu'augmenter. Donc, je pense que le chiffre quand même des 100 milliards hein, qui sera atteint d'ici la fin de la décennie, je pense qu'il doit quand même nous alerter, nous inquiéter. Moi, je le prends comme un indicateur un petit peu synthétique. Mmh. En réalité, ce qu'on entend, c'est que dans le cadre actuel, avec les mesures qui sont prises, l'organisation qui est prise, en effet, les efforts ne sont pas crédibles. Mais de toute façon, la France, elle n'est pas très loin de se retrouver dans une situation dans laquelle elle n'aura pas le choix. Finalement, on est en train de se convaincre tous qu'il n'y a pas de contexte politique, pas de levier pour faire des économies importantes de plusieurs dizaines de milliards. Il y a des pays qui n'ont pas eu le choix. Et finalement, est-ce qu'on a envie de se retrouver dans cette situation? On a encore la maîtrise de notre destin. Profitons-en.
Xavier, est-ce que Bruno Le Maire a tort de s'acharner et de parler d'un retour sous les 3% en 2027? Discours qu'il tenait encore cette semaine à l'Assemblée nationale lors des séances aux questions-réponses au gouvernement avec la perspective de voir les agences nous dégrader. Ou alors est-ce qu'on se dit, voilà, c'est un faux sujet finalement, après tout, les agences de notation ont-elles encore le pouvoir de nuisance qu'elles avaient il y a une dizaine d'années? Peut-être pas finalement.
Mais je pense que si vous savez que vous êtes dans la fonction pour quelques mois seulement, vous continuez dans le mur.
Ça reste votre scénario, il va
oui,
partir.
Oui, ce sont des déclarations à titre posthume, j'imagine.
Ah.
Oui, j'imagine. Puisque de toute façon, on sait avec Jean-François, ce sénateur qui a été...
Jean-François Husson
qui a fait une visite surprise.
Rapporteur
et on
pourra
revenir là-dessus. Hein, mais ouais. Il fait une visite surprise. Il a dit dans sa conférence de presse qu'il avait eu accès aux données de la direction du Trésor remis au cabinet du ministre. Et les données sont implacables. Le déficit, c'était des données qui ont été transmises fin octobre ou début novembre au cabinet du ministre. C'était 5,4 pour le déficit 2023, 5,6, 5,7 pour le déficit 2024 et 5,9 pour le déficit 2025. Donc les données à ISO, évidemment. Donc là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est sur le caractère. On n'est pas en désaccord profond. On est en désaccord sur la méthode, parce que pour avoir un recours à une économie, supposons qu'on ait envie de faire une économie de 50-60 milliards. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas à l'Argentine. On est au sein de la zone euro. Pour que ça marche, les pays qui ont fait de ce type des économies, je dirais, à la hache, de manière assez dure, ont systématiquement été des économies qui ont bénéficié de la baisse de leur taux de change. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous comprimez la demande interne, si vous faites une économie de 50 milliards aux alentours, c'est, on va dire, 2 points de PIB, et il y a un multiplicateur derrière. Donc vous avez une récession de l'ordre, je sais pas, Guillaume, je fais
peut-être un gros point de récession. Oui, et finalement, si ça résout le problème structurellement, je pense que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr. Cet effet-là, souvent, on l'a surestimé. Les modèles économiques prévoyaient ça dans la vraie vie. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
On l'a aussi sous-estimé en Grèce, hein, par exemple.
Oui, moi je pense. Discuter dans une autre scène, mais je pense que les faits seraient plus importants. Donc, si vous n'avez pas simultanément une baisse du taux de change qui permet de stimuler une demande interne mondiale qui est plutôt bonne, vous provoquez une récession. Est-ce que les agents économiques vont surréagir? Est-ce qu'au fond, le taux d'épargne d'une partie des déciles de revenus élevés va être stimulé par ce dispositif? Rien n'est moins sûr. Donc, je pense que la difficulté auquel on est confronté, c'est de trouver un chemin qui permette de ne pas altérer une croissance potentielle française. Ouais. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe sur ce chiffre de l'INSEE? Ce chiffre de l'INSEE nous dit quoi? Nous dit que la croissance potentielle française a bien décliné post-Covid, quelle que soit la stimulation, la réindustrialisation, tout ça.
Plus que dans notre pays.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et donc, ça veut dire que tendanciellement, on ne peut pas supporter je suis d'accord avec toi, Guillaume, le poids de la dette devient vraiment problématique et crée un effet d'éviction. Donc, effectivement, il faut avoir un discours de vérité. Et ce discours de vérité, il faut avoir un accès aux chiffres. Et je pense que la première nécessité, c'est de comprendre ce qui s'est passé sur les recettes. Qu'est-ce qui fait que les recettes, en 2023, n'ont progressé que de 2% en nominal, alors que la croissance... Alors que si vous regardez, on a les chiffres de l'INSEE, commencent en 1974. Les stats, hein, c'est un tableur Excel, je l'ai travaillé depuis 2-3 jours. On a systématiquement eu des croissances de recettes supérieures à la croissance de l'économie nominale, à l'exception des crises, Lehman Brothers ou la crise du Covid. Là, on a une double bascule. On a une première bascule en 2020 avec le Covid et on a une deuxième bascule très rapprochée en 2023 avec cette fuite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on aura diagnostiqué ce qui se passe au niveau des recettes, c'est-à-dire une fragilisation du tissu industriel, à mon avis, pas des grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles affichent une surrentabilité, on va en parler après. Mais le tissu des petites et moyennes entreprises, à mon avis, post-PGE, est en train de partir à volo. En tout cas, une partie part à volo. On a un payback, un retour sur l'impôt sur le revenu qui est négatif. Donc ça, c'est un deuxième question. On a des revenus de TVA qui sont en reflux. On parle de TVA sociale au moment où les revenus de TVA sont en train de baisser depuis septembre de l'année dernière. Donc c'est ça qu'il faut tenter de comprendre. Une fois qu'on aura bien diagnostiqué ce truc-là, on peut tenter de construire un retour à meilleure fortune.
Un mot là-dessus.
Sur l'impôt sur le revenu, on a une petite piste quand même qui est que le barème a été indexé sur l'inflation et non pas sur les revenus. Donc en fait, c'est une baisse d'impôt sur le revenu et ça, c'est pas plus inquiétant que ça.
Donc ça veut dire que sur 2024, ça devrait se corriger.
Tout à fait. Voilà. C'est une prévision.
C'est une prévision.
Allez, voilà pour ce sujet des dépenses sociales. On va écouter le patron de Total dans un instant qui a fait une sortie intéressante.
Total Énergie en France.
Pas tout de suite, on va l'écouter. On va l'écouter dans un instant. Voilà, c'était un peu pour vendre ça. Je vous donne les grands titres de l'actualité. L'inflation qui ralentit en France, 2,3% en mars contre 3% en février, chiffre communiqué ce matin par l'INSEE. Le gouvernement, on en parlait, va-t-il de nouveau toucher au calendrier de suppression de la CVAE, cet impôt de production que le gouvernement s'est déjà engagé à faire disparaître pour 2027. Thomas Cazenave, qui cherche à faire des économies, a déclaré ce matin que cela faisait partie des sujets dont il fallait parler avec les parlementaires. Et puis Bras de Fer qui continue chez Auchan pour réclamer une hausse de salaire. Il y avait encore une journée de mobilisation aujourd'hui. Entre 3 et 5 000 salariés mobilisés d'après la CFTC, premier syndicat du groupe. 18h31, on revient dans un instant et on écoutera donc le patron de Total qui a fait une sortie intéressante ce matin. Tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h33, Xavier Patrollin, François Girolf, Guillaume Motti avec nous jusqu'à 19h sur BFM Business. Bon, on se posait la question de savoir dans quelle mesure on allait aller gratter du côté des dépenses sociales en France. Alors, vous savez que Gabriel Attal a dit qu'il y a une autre piste qu'on pourrait envisager. J'ai pas de dogme là-dessus, c'est la fameuse taxe sur les super-profits. Il n'a pas de dogme là-dessus, Gabriel Attal. Écoutez ce que disait le patron de Total ce matin. Apparemment, il y en a quelques-uns sur le sujet. Écoutez.
Les profits de Total Energy en France ne sont pas des super profits.
Total Energy, c'est un record. C'est plus 4% par rapport à l'an dernier.
En France, il y a un principe, l'impôt, il y a un principe sur les taxes, c'est le principe de territorialité. On paye des taxes sur ce qu'on fait comme résultat dans un pays donné.
Donc, comme vous avez payé des impôts à l'étranger, vous ne voulez pas en payer une deuxième fois en France.
Total Energy a payé l'année dernière plus de 23 milliards d'euros à l'étranger. C'est beaucoup d'argent qu'on paye en taxes. Donc, on est une des entreprises les plus taxées au monde.
Donc, vous n'êtes pas d'accord pour contribuer la période difficile
nous contribuons. Par exemple, à travers le plafonnement de l'essence à 1,99€. D'ailleurs, les Français apprécient cette mesure. Donc, nous contribuons de multiples façons à l'économie française.
Mais plus globalement, est-ce que vous comprenez que ça choque ces profits qui atteignent des sommets historiques, plus de 20 milliards d'euros?
Je pense que c'est qu'en France que ça choque. Je veux dire, la plupart des pays au monde, le fait que les entreprises aient des bons résultats, c'est-à-dire qu'elles sont en bonne santé, elles contribuent encore une fois à l'économie de leur pays et de la planète et des autres pays également. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'habitue en France. Moi, je suis heureux qu'en France, il y ait des grandes entreprises qui fassent des profits. Les profits, c'est les investissements futurs.
Bon. Traduit autrement, revenez pas à me parler d'une taxe sur les énergéticiens comme on l'a fait l'année dernière. Enfin, c'est ça le message de fond, finalement.
Son raisonnement tient parfaitement. Moi, je suggérerais à la puissance publique, alors encore faudrait-il qu'il y ait un consensus politique là-dessus, ou un consensus social, c'est qu'on panache la retraite par répartition d'une retraite par capitalisation avec un fonds de retraite garanti par l'État, ou en tout cas avec à son conseil d'administration les représentants syndicaux, et qui est comme première ligne d'investissement Total. Il bénéficierait ainsi de la valeur ajoutée de Total au profit du financement des retraités. Ça serait un panachage. Donc, évidemment, c'est une plaisanterie de ma part. Mais penser à des super-profits. Les super-profits, ça ne tient que pour ce qu'on appelle les rentes inframarginales. C'est-à-dire des situations, notamment pour des producteurs d'électricité. Là, ça peut avoir du sens. Mais dans le cas Total, l'argument est implacable. Parce que la notion de super-profit, il faut la mesurer sur tout un cycle. Si on la mesure one shot sur une année, c'est non pertinent. Et donc, quel est le cycle pertinent dans le cas d'un Total. J'imagine que ça va être le site d'exploration-production, donc disons une décennie. Là, après, vous moyennez les choses et vous voyez, c'est pas du tout pareil. Prenez les transporteurs maritimes. Ils ont eu une phase de super profit hors norme sur 2020, 2021, 2022. 2023, c'est un retour à la normale. Voilà. Donc, ils ont accumulé énormément de cash pour des entrepôts, pour des entreprises, si c'est pour certaines d'entre elles, étaient quasiment au bord de la faillite il y a une décennie à peine. Donc, vous voyez, la notion de super profit, c'est une notion à moduler avec grande prudence. Et enfin, dernier point, moi, j'ai l'impression que la surrentabilité qu'affichent des grands groupes mondiaux et internationaux est peut-être pas soutenable. C'est-à-dire que dans les prochaines années, ça, c'est une question, on va pas le trancher là, mais j'ai l'impression que cette surrentabilité va refluer. Et va pas refluer par une pression fiscale, va refluer naturellement parce qu'il va y avoir des effets volumes qui vont devenir pesants et le pricing va devoir refluer.
Guillaume Autier.
Oui, déjà le terme lui-même, je suis étonné que typiquement quand le Premier ministre a été interrogé là-dessus mardi soir, il corrige pas déjà le terme lui-même ou alors qu'on le complète pas en disant que si une entreprise fait des super profits, c'est qu'elle est aussi d'abord un super contribuable qui perd des super impôts.
On est dans le contre-feu politique dont parlait.
Oui, mais le mot on le laisse prononcer, on le laisse s'installer. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu gênant. D'ailleurs, le chiffre qui a été cité ce matin par Patrick Pouyanné, hein, c'est que par rapport aux profits d'une année qui sont en effet très élevés factuellement, mais le montant d'impôts payé en une année, il a été encore plus élevé, plutôt 20 milliards. Et par ailleurs, d'ailleurs, la remarque que tu as faite, Xavier, elle est en fait déjà un peu proche de la réalité. Il a cité ce matin un autre chiffre que moi, je n'avais pas en tête, c'est que le nombre de Français, de petits porteurs qui sont actionnaires de Total, c'est 1% des Français. 600 000 personnes. Ce qui prouve que, finalement, la préparation de la retraite, ou de façon générale, l'épargne, qui permet de bénéficier aussi de la performance de cette entreprise, bah finalement, les Français n'écoutent pas trop ce qu'on leur dit sur le fait que Total, c'est des méchants. Ils préfèrent, au contraire, bénéficier de la santé de cette entreprise. Finalement, on voit que les Français, ils votent avec leurs pieds. Ils ont quand même beaucoup de bon sens.
Pense à Gérolf, un mot là-dessus, non ?
Moi, je suis un petit peu moins dérangé par le terme de super profit. On a vu quand même des taux de marge qui ont explosé dans un certain nombre de secteurs, comme le secteur énergétique, le secteur agroalimentaire aussi. D'ailleurs, c'est pas seulement un problème, à mon avis, de redistribution, de dire les actionnaires gagnent trop, etc. C'est aussi, pour moi, le problème principal, c'est que c'est un prélèvement sur le reste de l'économie et qu'il y a certaines petites entreprises, par exemple, qui ont vu leur facture énergétique exploser. Et du coup, on a un nombre de défaillances d'entreprises quand même qui augmente. Peut-être que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on voit des difficultés en France, notamment sur l'emploi. Et donc, moi, je vois pas ça que du point de vue fiscal. Pour moi, c'est plus une question entre branches dans l'économie française. Est-ce qu'il n'y a pas un prélèvement un petit peu trop important de certains secteurs de l'économie? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour la régulation? Absolument. Et pour finir, il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui montre qu'il y a 32 milliards dont on sait pas très bien d'où est-ce qu'ils sont sortis, qui sont assimilés à des super profits. Donc, comme vous l'avez dit, ça correspond plus au cas de rente inframarginale, de profits inframarginaux. Tout ça pose quand même un petit peu question. À mon avis, il y a des gens qui ont payé un peu trop cher leur énergie, et je trouve pas ça illégitime qu'on redistribue un petit peu les cartes.
Oui, la notion de prélèvement sur l'économie, c'est vraiment la bonne notion. Et d'ailleurs, moi, je connais un acteur qui prélève 55% de la richesse nationale et qui s'appelle la sphère publique.
Ah oui. Monsieur, oui, Xavier. Oui.
Ce qu'on peut peut-être rajouter dans le cas de Total, si je voulais vraiment être le procureur, pas Fouquier-Tinville, mais le procureur, je dirais que dans le cas de Total, sur le sol français, Total aura quand même bénéficié de la REN. La REN, oui, tu sais, oui, c'est
l'accès, le tarif auquel EDF revend.
L'accès à la rente nucléaire.
Oui, oui.
Et là, je pense que Total a bénéficié d'une rentabilité très excessive. Mais d'autres acteurs en ont bénéficié, mais c'est probablement l'acteur en France. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête actuellement.
Oui.
Il y a une commission d'enquête au Sénat qui est assez pas piqué des vers sur le sujet. Et donc, je pense que là-dessus, Patrick Pouyanné serait bien inspiré de faire une opération, si ce n'est vérité, en tout cas une opération de transparence là-dessus.
Pour l'anecdote, vous avez vu ce qui a été annoncé hier soir par Patrick Pouyanné à l'ensemble des salariés du groupe, 100 000 salariés.
Sans action.
Total à travers le monde, Total fête son centenaire et donc à l'occasion d'une série de grands événements hier soir pour fêter le centenaire du groupe, Patrick Pouyanné effectivement a annoncé qu'il offrait 100 actions Total Énergie à l'ensemble des salariés du groupe.
Ce qui fait de l'ordre de 6 000 euros, c'est
ça ? Au cours actuel, on est à 6 300, mais il y a obligation de rester 5 ans dans la société. Alors, est-ce qu'on peut envisager que peut-être dans 5 ans, on sera,
mais on sera l'action Total. Mais en tout cas, c'est une très belle société. Hein. Oui, il faut pas qu'on ait une approche. Parce que derrière Super Profit, il faut faire le tri.
Absolument.
D'ailleurs, l'obligation de 5 ans, c'est en fait le cadre des actions gratuites, de l'allocation d'actions gratuites. Donc, ce n'est pas une contrainte qui met, je dirais, par cynisme. C'est juste la loi qui l'oblige à faire ça.
C'est une belle surprise en tout cas. Est-ce que vous voulez me dire un mot rapidement ? Alors, on a eu le chiffre de l'inflation en France en mars ce matin, 2,3% en mars contre 3% en février. On aura les chiffres européens, je crois, mardi prochain, l'ensemble de la zone euro. Tout ça fait dire à certains que peut-être la Banque Centrale Européenne va dégainer une baisse de taux, peut-être plus tôt que prévu, si ça se trouve. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça vous paraît être... Guillaume, vous regardez ça très près, vous, forcément.
Oui, ça semble probable, ce serait surtout très, très souhaitable. Oui. Je pense qu'à peu près l'ensemble des experts, j'espère que ce serait pas contredit sur ce point, considèrent qu'on a une voire deux baisses de retard. Au fond, alors on n'est pas là pour regarder trop dans le rétroviseur, mais on sait que la BCE s'est d'abord trompée sur l'inflation, était dans le déni de l'inflation, maintenant elle est dans le déni sur la baisse de l'inflation. Bon, finalement, elle est un peu cohérente dans l'erreur. Et d'ailleurs, les marchés eux-mêmes, ont déjà intégré cette baisse, puisqu'on voit que par rapport au principal taux de la Banque Centrale, qui est à 4,5, qui est resté à 4,5 depuis à peu près septembre dernier, le taux à long terme, lui, il est très en dessous. Hein, il est pour l'OAT à peu près à 2,8. Donc les marchés anticipent que la BCE va baisser ses taux. Et d'ailleurs, on voit que le vocabulaire est en train de changer subtilement. La BCE avait dit à l'été, au début de l'été, François Villeroy-Gallo a dit le printemps.
Oui.
Bon, ça se rapproche, le printemps. Ah ben,
le printemps, on y est.
Donc, voilà, le moment est venu, clairement.
Quelques mots, faut dégainer.
Je l'espère très fortement, oui, vous aussi, comme vous. Oui. Je suis d'accord, je trouve ça un peu dommage de faire une crise de l'immobilier alors qu'on a tellement d'autres problèmes. C'est pas vraiment l'urgence, à mon avis. Donc, si on pouvait mettre fin le plus vite possible à la crise à la fois de la construction, mais aussi de, voilà, enfin, il y a aucune raison, à mon avis, de laisser les taux aussi élevés. Sinon, de maintenir quand même un petit peu le rendement, ça permet aux investisseurs qui sont investis dans des obligations d'avoir des rendements, enfin notamment d'ailleurs sur la dette publique, ils sont plus importants. Je pense que en partie, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on laisse les taux élevés. Les Allemands, on sait qu'ils prennent très peu de risques dans leurs investissements. Ils ont des obligations à taux fixe et donc ils veulent des rendements élevés parce que l'inflation était élevée. J'espère qu'on va sortir de ça et effectivement qu'ils vont décider une hausse de taux. Je pense que c'est loin d'être le plus probable.
Une baisse de taux.
Je pense cependant que c'est pas le plus probable. Je pense qu'ils vont donner peut-être deux baisses de taux en juin, mais je pense qu'en le 11 avril, malheureusement, il y aura pas de baisse de taux. Ce serait mon pari, mais
bon. Xavier, vous pariez quoi, vous ?
Non, c'est trop tôt.
C'est trop tôt. Non, mais c'est trop tôt. Sur les chiffres de l'inflation, il y a bien un reflux. On n'a pas du même profil d'inflation qu'aux États-Unis. Oui. Donc, on a une amplitude plus faible et on a bien un reflux. Donc, de ce point de vue-là, on devrait baisser les taux. Simplement, on a des négociations salariales et on sait que c'est un indicateur qui est extrêmement suivi. Hein. Ils ont plusieurs indicateurs. Du point de vue de l'accord inflation ou de l'inflation IPCH, de ce point de vue-là, on a bien un reflux. Donc, on peut extrapoler. Sauf qu'on est dans le dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, peut-être plus latéral que déclinant. Et pourquoi ? Parce que c'est essentiellement les services. Et on le voit dans les PMI flash qui ont été produits la semaine dernière. Les commentaires sur la partie services en Europe restent extrêmement positifs du point de vue du régime de prix. Hein, les directeurs d'achat au niveau européen indiquent bien que sur les services, la formation des prix reste toujours soutenue. Or, on sait que dans la branche service, c'est des branches qui sont extrêmement intenses en salariés. Et donc, on a des hausses de salaire prévues. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est pas, sans être dans une boucle prix-salaire, on est forcément sur une stratégie de vigilance. Donc, je vois mal comment les gouverneurs de la BCE, avec la doctrine actuelle, pourraient anticiper. Au mieux, ils vont attendre le rendez-vous de début juin, parce qu'ils auront une idée beaucoup plus claire d'un certain nombre d'indicateurs, dont les négociations salariales. Mais ne sous-estimons pas quand même que dans les services... On peut avoir, d'ailleurs on l'a vu sur le chiffre français, on a un indice qui est à 2, 3 ou 2, 4 et un indice service qui reste à 3. C'est pas grave, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude. Mais malgré tout, il reste à 3. Et donc cette composante-là, même chose aux États-Unis, c'est des composantes qui sont suivies parce qu'on est dans la fin du cycle de décélération de l'inflation.
Ouais.
Et forcément, c'est un indicateur qui est surpondéré dans les prises de décision des gouverneurs.
Ça crée de la déception sur les marchés s'il n'y a rien en avril.
Moi, je veux juste signaler qu'on regarde le niveau absolu, 2,3%. On a l'impression d'être revenu dans une norme. C'est à peu près le cas, mais la décélération, elle est très rapide. Regardons la dérivée. Sur 12 mois, il y a un mois, c'était 3%. On est passé de 3 à 2,3. En fait, c'est une évolution très rapide. Alors, Alors, je dis pas qu'il faut prolonger la tendance et qu'on va passer rapidement sous zéro, on n'y est pas. Mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit à 2,3. Peut-être 2,8, 2,7, 2,3, ça veut dire que ça ralentit, en fait, très vite.
Mais c'est vrai que si tu analyses la variation trimestrielle, tu as absolument raison, on est clairement en dessous de 2.
Voilà. Hein,
et
exactement.
Donc là, de ce point de vue-là, si c'est sur seul indicateur, tu as raison, on pourrait anticiper.
Il y a des arguments pour une baisse d'intérêt, voilà. Clairement.
Bruno Le Maire, en Seine-Maritime aujourd'hui à Sandouville chez Renault, pour parler réindustrialisation, bah, il est allé parce qu'il y avait une belle nouvelle là-bas. Renault annonce qu'il va construire une nouvelle génération de fourgons électriques. Écoutez, tiens, Luca De Meo, le DG de Renault, à Sandouville ce matin, évidemment.
Le premier résultat concret, et je suis très content de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, c'est qu'on va embaucher 550 personnes sur le site dans les prochains 4 ans. Ce projet, ce sont aussi 300 millions d'euros d'investissement prévus d'ici 2026 à Sandouville et sur les autres sites à côté. Donc en 3 ans, on a vraiment réancré les racines de Renault en France et on a pu le faire parce que on apporte des projets industriels et commerciaux qui sont branchés sur les chaînes de valeur de l'avenir, c'est-à-dire l'électrique, le software et l'économie circulaire.
Voilà, il y avait Bruno Le Maire, donc il a dit tout ça est bon pour l'emploi, l'industrie du pays. Il a surfé un petit peu là-dessus, il a rappelé quoi, faut une nouvelle filière industrielle dans les batteries, dans l'intelligence artificielle, dans les pompes à chaleur, dans le photovoltaïque. Voilà, il continue un petit peu de porter ce discours décarbonation, Bruno Le Maire. Je rappelle la petite phrase du patron de BPI l'autre jour qui disait concernant la réindustrialisation, je suis confiant mais prudent. Je trouve que c'est une petite phrase qui est lourde de conséquences, voilà, finalement. Manière de dire, bah, ça avance, mais c'est du temps long, la réindustrialisation, quoi qu'on en dise en France, finalement.
Oui, moi, je suis confiant, mais inquiet.
Parce que ça va pas assez vite ?
Non, mais on le verra.
Ou parce que ça va pas assez fort ?
Non, mais parce que je pense qu'on a sous-estimé la désindustrialisation auxquelles nous avons assisté depuis deux décennies, mais surtout avec l'accélération post-crise de Lehman Brothers, ce qui a été terrible. Hein. J'avais regardé ça il y a quelques semaines. On a des pertes d'emplois sur les 30-40 dernières années. On a quatre pertes massives trimestrielles d'emplois, de 200 à 300 000 emplois. Je ne te redonnerai pas, mais il y a quatre trimestres sur les 40 dernières années où tu as des pertes massives. 200 000 emplois qui sont détruits, c'est essentiellement des emplois industriels. Donc, la désindustrialisation française, c'est-à-dire le passage de 20% du PIB à moins, aux alentours de 10, c'est quatre vagues successives. Il y a le choc pétrolier, il y a 83, il y a Lehman Brothers, et puis il y a 93. Et c'est des chocs à chaque coup terribles. Et donc, les créations d'emplois industriels aujourd'hui sont négligeables. Donc, par contre, on a un atout, mais un atout qui reste très fragile, qui est notre production d'électricité nucléaire. Ça, c'est un atout majeur. Il suffit d'en parler à nos partenaires allemands qui, aujourd'hui, eux, sont confrontés à une dynamique de désindustrialisation. Mais eux, ils partent de très haut. Donc, c'est pas gagné. Parce qu'on a un actif, le parc nucléaire, la production d'énergie nucléaire, mais on a une situation budgétaire de la puissance publique qui est extrêmement fragile. Et donc, ça va être très dur de concilier la phase de... C'est pas impossible, mais le chemin... Regardons les chiffres. 300 millions d'investissements, 500 créations d'emplois.
Sandouville, Renault, voilà.
Sandouville. Oui. Je dis pas que c'est négligeable. C'est très bien pour Sandouville et toute la périphérie de Sandouville. C'est une très bonne chose. Hein, les petites rivières font des grands fleuves. Mais c'est un processus extrêmement lent. Donc moi, j'y vois plus une opération, là aussi, de communication qu'une véritable stratégie de réindustrialisation digne de ce nom avec de la vraie valeur ajoutée. Oui. N'oublions pas qu'on est toujours en déficit de balance des paiements et en déficit commercial.
François Girolf.
Non, c'est vrai que le secteur automobile en particulier a beaucoup souffert de la désindustrialisation. Enfin, en France, il y a eu beaucoup à la fois de pertes d'emplois directes et aussi des délocalisations. En partie d'ailleurs, Renault a choisi de produire un certain nombre de ses modèles à l'étranger. Et donc, c'est en ça que je pense que le ministre de l'économie doit être content en termes d'image. Que
ça fait des belles images. On va pas dire
voilà. Enfin, ça quand même. Voilà. Enfin, Renault quand il dit on décide de venir ici. Enfin, clairement. clairement, c'est que c'était pas évident. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut se réjouir quand même des bonnes nouvelles. Après, c'est vrai que je pense que le gouvernement a un discours qui est un petit peu en décalage par rapport à la réalité sur le sujet de la réindustrialisation. En réalité, dans les chiffres, la production industrielle continue à stagner. Elle est inférieure à ce qu'elle était avant le Covid. Donc, on a beaucoup de discours sur la réindustrialisation, mais en réalité, on est à peine au niveau de 2015. Et sur l'emploi industriel, c'est vrai qu'il y a des créations d'emplois industriels, mais c'est très peu par rapport à tout ce qu'on a perdu. On a perdu plusieurs millions d'emplois. Et là, on gagne des dizaines de milliers d'emplois par an. Mais on va mettre beaucoup d'années avant de récupérer une partie de ce qu'on a perdu.
On réindustrialiser peut-être une partie du pays, mais sans les emplois, l'ensemble des emplois qui vont avec, comparé à ce qu'on a connu il y a 30-40 ans. C'est ça aussi la question aujourd'hui.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Bon, d'abord, évidemment, c'est une bonne nouvelle. On se réjouit que Renault crée de l'emploi et puis voilà, crée des véhicules innovants électriques. En l'occurrence, c'est une activité de véhicules utilitaires électriques. C'est positif. Après, voilà, je rejoins ce qui a été dit. Le contexte macroéconomique depuis 20 ans montre des chiffres qui sont en effet sans commune mesure avec quelques centaines d'emplois à Sandouville. Et puis, je dirais, voilà, sur un petit peu la l'utilisation politique de tout ça, moi, j'ai toujours un peu de recul face à des hommes politiques. Alors, on peut comprendre, en plus, on est la région, que Bruno Le Maire connaît bien, mais qui consiste à s'approprier, voire à attribuer à la politique du gouvernement un projet comme celui-là. On a entendu Bruno Le Maire, dans son discours, attribuer directement ce projet à l'évolution du cadre fiscal sur le capital. Honnêtement, il n'y a pas le moindre lien entre les deux sujets.
On parle des territoires qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés par l'État, voilà, où on voit le Rassemblement National faire des scores de plus en plus significatifs aujourd'hui.
Bien sûr, mais dans un sujet comme l'industrie, absent, au fond, le coût de l'emploi, les charges sociales sur l'emploi, ça, c'est un sujet fiscal pertinent. Honnêtement, les impôts sur le capital, il n'y a absolument pas le moindre lien avec le projet dont nous parlons. Donc ça aurait été en effet utile peut-être qu'on dise, bah, voilà ce qui doit nous faire réfléchir, c'est peut-être le coût de la main d'œuvre pour attirer des projets, des usines comme celle-ci. Il faut qu'on ait une vraie réflexion sur le coût total pour une entreprise comme Renault d'avoir des salariés en France. Voilà un bon sujet fiscal. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a entendu ce matin.
Davier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et juste rajouter un chiffre sur la production industrielle, c'est François qui m'y fait penser, la production industrielle automobile française, si on compare le chiffre de 2008 à celui d'aujourd'hui, la production industrielle automobile française est 30% inférieure. Elle a perdu un tiers de son volume. Pourquoi ? Parce que outsourcing, Europe de l'Est et Afrique méditerranéenne. Voilà. Donc ce processus est quasi irréversible. C'est-à-dire le réverser va être extrêmement long et très peu probable. Donc il nous faut trouver d'autres industries.
Le Maire les énumère, intelligence artificielle, pompe à chaleur, photovoltaïque. On parle là stricto sensu du volet décarbonation, évidemment. Voilà, on a assumé. Non.
Oui. L'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais il faudra progresser au niveau du classement PISA, au niveau mathématique dans nos collèges et lycées, même si on obtient des médailles FIS par ailleurs. Et sur la partie décarbonation, voiture électrique, mobilité douce, si j'ose dire, je crains que l'empire du milieu ait pris une petite avance d'un quart de siècle.
François,
je voulais appuyer ce que vous avez dit sur les impôts sur le capital. C'est vrai que on entend beaucoup dire que le problème d'attractivité de la France, c'est que le capital est trop taxé. C'est pour ça qu'on a fait la flat tax, qu'on a réformé l'ISF, qu'on a diminué l'IS, etc. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que le travail est aussi extrême et très très imposé, et peut-être que un point de consensus, on va dire, entre des gens comme nous, ça pourrait être de dire peut-être qu'on pourrait un petit peu augmenter le prélèvement sur le capital et diminuer les prélèvements sur le travail, c'est-à-dire de dire je m'en doutais, mais c'était pour proposer quelque chose d'un peu consensuel.
Allez, il reste 3 minutes d'appel. Est-ce si consensuel?
C'est le début d'un compromis.
Voilà. C'est le début d'un compromis, exactement. 3 minutes d'appel. Bah, l'extra time, on devait parler malheureusement du deal entre EDF et General Electric. On n'a pas le temps. On va passer à vos avis du soir. 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur. Guillaume Autier, voulez-vous commencer? On vous écoute, Guillaume. 30 secondes.
Oui, j'ai lu dans la presse ce matin, dans les Échos, que le gouvernement s'apprêtait à soutenir une proposition de loi imposant des obligations de proportion minimale de voitures électriques dans les flottes d'entreprises. Oui. Alors évidemment, comme toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je rappelle juste qu'il y a 6 semaines, après à peine, le président de la République, dans une conférence de presse, indiquait que toutes les normes inutiles feraient l'objet d'une revue, qu'on aurait un effort rigoureux de simplification. Je pense que c'est probablement dans l'histoire de la Ve République le plan de simplification qui a été le plus bref de toute l'histoire. Après 6 semaines, il est déjà complètement oublié et enterré. Et
voilà. On compte beaucoup sur les flottes d'entreprises pour faire grossir un petit peu les rangs des voitures électriques en France. Xavier Patrolin, votre coup de gueule ou coup de cœur, je ne sais pas. Xavier,
ouais, c'est un coup de cœur budgétaire, c'est sur le CBO, le Congress Budget Office, qui est un outil statistique d'analyse économique au service non partisan, au service du Congrès américain pour faire des évaluations budgétaires. Il a sorti un rapport hier ou avant-hier qui est absolument alarmant sur la dérive budgétaire américaine, et je pense que ce serait un très bon dispositif à mettre à disposition du Sénat et du Parlement, qu'il ne soit pas uniquement à la Cour des comptes, mais qu'il soit vraiment quelque chose d'indépendant et qui permette d'un accès au chiffrage et aux tendances de moyen terme avec des simulations sur 10, 15, 20 oui. ou un demi-siècle. Ouf. Et le travail que fait le CBO est absolument remarquable dans l'accès aux données. Je conseille aux étudiants en économie qui nous suivent d'aller sur ce site, c'est absolument remarquable.
Sauf que là, on disait, on raisonne à quelques semaines seulement, finalement.
Oui, mais non, mais surtout, je pense que nos députés, nos représentants n'ont pas accès c'est aux données. Que seulement les membres, certains membres des commissions des finances. Et ça me semble pour. Et alors, je veux pas sur les dispositions de budgétaires au 49.3, mais c'est pour qu'il y ait une appropriation de cette problématique budgétaire, il faut que nos représentants, à minima, aient accès à des informations.
Je me permets juste de faire une remarque là-dessus. Il y a un organisme privé qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle François Eckhall, qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes, qui s'appelle Fipeco, qui fait des analyses. Remarquable. Et vraiment, on peut les lire avec beaucoup de profit.
Tu as raison.
Pas des super profits.
Autre sujet. François Girolf, 30 secondes, c'est à vous, mon cher François, pour terminer.
Un coup de cœur aussi, sur lu dans la presse ce matin, aussi dans les échos, sur l'assurance maladie qui augmente les contrôles, notamment des centres de santé, et qui a trouvé de l'argent, en fait. Il y a beaucoup de centres de santé qui surfacturaient les prestations santé à la fois ophtalmologique et dentaire. Et je pense que voilà, je suis favorable à la dépense publique, mais je suis aussi favorable à ce qu'elle soit contrôlée et à ce qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas des abus dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs.
Voilà le coup de gueule de François Girolf ce soir, 18h57. Merci messieurs, c'est terminé. Merci, pour Guillaume. Ce soir, Xavier Merci. Patrolin, François Girolf et Guillaume Autier avec nous sur le plateau. À très vite, avec Merci plaisir beaucoup. Bien sûr. Dans un instant, le journal et puis les pionniers chez Fred Mazella pour vous accompagner bien sûr jusqu'à 20h. On se retrouve lundi 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.